Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je suis heureux de vivre ces moments avec vous ce matin. Depuis hier soir, nous réfléchissons sur une thématique très importante, le retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de devoir rencontrer un personnage important. J'ai présidé une fédération nationale qui regroupe des unions d'églises protestantes évangéliques. Notre ministre de tutelle, c'est le ministre de l'Intérieur. Et nous avions sollicité à de multiples reprises l'honneur d'avoir comme invité à notre Assemblée générale annuelle le ministre des cultes, qui est notre ministre de tutelle. Et quand le bureau des cultes nous a annoncé enfin que le ministre allait venir, je peux vous dire que nous étions sur notre 31. C'était début janvier 2004. Monsieur Nicolas Sarkozy était ministre du culte et il a honoré les protestants évangéliques de France de sa présence. Alors je vous fais grâce de tout le protocole et tous les préparatifs et avant l'arrivée du ministre, il faut vider les lieux, il y a les chiens renifleurs et toutes les précautions d'usage. Je présume que si vous étiez, vous comme moi, invité en tête à tête à rencontrer un personnage important de ce monde, bien, on s'y prépare. Il n'est pas question d'improviser. Il faut envisager toute éventualité. Et puis, il faut être aussi irréprochable que possible. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde et puis un beau jour, il va mettre un point final, remettre de l'ordre dans ce grand désordre, remettre les pendules à l'heure et il va inviter chaque personne à rendre compte, qu'il le veuille ou non, de ce qu'il a vécu sur la planète Terre. Et l'Écriture, la Bible, parle de ces choses avec solennité. La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Hier, nous avons médité sur les signes précurseurs, annonciateurs du retour de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, il y a cinq grands discours. L'évangile est construit autour de ces discours. Et les chapitres 24 et 25 de l'évangile de Matthieu nous relatent ce qu'il est convenu d'appeler le grand discours eschatologique. Le mot eschatologique, ça veut dire ce qui se passe à la fin des temps ou dans les temps de la fin. Nous qui croyons que Dieu a créé l'homme, nous avons une vision cohérente de l'histoire. La Bible enseigne que le monde a eu un commencement, il a un déroulement et il aura un dénouement. Et qu'on le veuille ou non, un jour, eh bien, tout œil le verra, tout genou devra fléchir et toute langue devra confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors Jésus, dans son enseignement, nous a parlé de son retour. Il faut dire que le Nouveau Testament, près de 25% du Nouveau Testament nous parle du retour de Jésus-Christ. Et Jésus a dit que avant sa seconde venue, il y aurait des signes annonciateurs, précurseurs. Dans le judaïsme du temps de Jésus, les rabbins utilisaient cette belle image de l'enfantement, des douleur de l'accouchement qui précède la naissance. Et Jésus a signalé que dans les temps qui précéderaient son retour, il fallait veiller parce qu'il y aurait des faux prophètes, des faux docteurs, des faux Christ, des gens qui se prétendent « Je suis le Christ ». Jésus a dit encore qu'il y aura des guerres parmi les nations, il y aura des cataclysmes à l'échelle universelle, Alors, ces différents éléments que Jésus mentionne comme signes précurseurs sont repérables ici ou là dans l'histoire de l'humanité. À certaines périodes, cela est plus intense qu'à d'autres, mais ce qui semble être ce qui se profile à l'horizon, c'est que ces signes précurseurs, d'une part, vont se généraliser à l'échelle cosmoplanétaire, et ce, en second lieu, ces signes vont s'intensifier. Jésus parle encore de la persécution des justes, dont j'ai signalé les cataclysmes, famines, tremblements de terre, l'apostasie ou l'abandon de la foi des faux croyants, des gens qui prétendent être des vrais, mais qui sont dans la contrefaçon. Et puis, le seul signe positif, Jésus dit que peu de temps avant son retour, la bonne nouvelle de l'Évangile sera accessible aux quatre coins de la planète. Aujourd'hui, des gens qui traduisent la Bible, vous savez que la Bible, ça a été le premier livre imprimé au XVIe siècle. Et aujourd'hui, la Bible, qui est la parole de Dieu, demeure le grand best-seller de tous les temps. Et les gens qui traduisent la Bible nous disent qu'aujourd'hui, en 2021, il reste quelques centaines de peuples qui n'ont pas dans leur langue maternelle une portion des Écritures, des 66 livres de la Bible. Et hier soir, nous avons évoqué rapidement, et je le rappelle à grand trait tiré, ce qui va se passer quand Jésus va revenir. Et ça, ce sont des certitudes massives, avérées. C'est écrit noir sur blanc. Et le croyant, il s'y cramponne et il y croit de tout son être. Jésus va revenir de la même manière qu'il est monté au ciel. Il est monté au ciel corporellement. Il reviendra corporellement, physiquement. Et la Bible affirme que tout œil le verra. Ne me demandez pas, si nous qui sommes dans l'hémisphère nord, qu'adviendra-t-il de ceux qui sont en train de dormir dans l'hémisphère sud? Merci d'avoir posé la question. Question suivante. Jésus reviendra à un moment connu de Dieu seulement. C'est Dieu de toute autorité qui a fixé le moment du retour de Jésus. Et Jésus dira, soyez prêts, parce que ce retour peut avoir lieu à n'importe quel moment. Et Jésus dit que son retour sera comme un voleur. Je crois savoir qu'un cambrioleur, avant de s'introduire par effraction à votre domicile, il ne va pas prendre la peine de vous envoyer un SMS en vous disant « Préparez-vous, j'arrive bientôt ». On aime bien quand les livreurs font ça, hein. Ce n'est pas toujours le cas. La Bible dit que Jésus reviendra sur les nuées du ciel. Jésus est mort, et on a rappelé cet événement. Il est mort alors qu'il était un serviteur souffrant, rejeté. La Bible dit que Jésus va revenir en souverain triomphant, couronné. Et sa gloire sera éclatante. Jésus reviendra en posant les pieds sur le mont des Oliviers à la voix d'un archange. Et je crois que toute la marée chaussée céleste sera en tenue, un peu comme la garde républicaine au 14 juillet chez nous. Sa venue sera soudaine et inattendue. De nombreuses personnes n'auront pas vu venir. Il n'y aura pas besoin de regarder le JT de 20 heures qui nous annonce sera Jésus est revenu, parce que la Bible affirme que tout œil le verra. Et cela se saura. Sa venue sera soudaine et inattendue, dans un climat d'insouciance générale. Et Jésus a dit, ce sera comme au temps de Noé, où les gens mangeaient, buvaient, achetaient, consommaient, on faisait la teuf, la fête, et n'ont rien vu venir. Alors oui, ça les a bien fait rigoler quand Noé leur a dit, mais ils leur ont dit, mais Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ben, je construis un bateau parce que Dieu m'a dit de construire. Ah bon, mais attends, et pourquoi un bateau? Ben, il va pleuvoir beaucoup et Dieu va punir l'humanité qui est rebelle contre Dieu et il m'a demandé de construire un bateau. Vous imaginez les voisins et la moquerie. Les gens n'ont pas vu venir, mais le déluge est arrivé. Et la Bible affirme, et Jésus cautionne l'historicité de ce récit, la Bible affirme qu'il n'y a eu que 8 survivants, Noé et tous les siens. Et Jésus dit qu'il y aura ce climat d'insouciance, d'indifférence, d'inconscience. Alors, la question est de savoir, mais pourquoi Jésus doit-il revenir une deuxième fois, que l'on soit croyant ou non? Quand on parle du calendrier, on regarde le calendrier, nous sommes le 21 novembre 2021. Il y a avant et après Jésus-Christ. Et l'historicité de Jésus, elle est avérée. Il a partagé l'histoire de l'humanité en deux. Il y a avant et puis il y a après. Et Jésus est un de ces personnages, ou le personnage par excellence, dont la venue sur la terre a laissé des traces et a fait une différence pour le meilleur. Jésus revient pour parachever son œuvre de rédemption. Il est venu une première fois pour mourir sur une croix. Lui qui était innocent, il a été traité comme un coupable pour que le coupable que je suis puisse être considéré comme un innocent. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand je prends conscience de cette réalité, je reconnais mon état de pécheur, je ne suis pas à la hauteur de ce que Dieu attend de moi, je ne suis pas au niveau. Je reconnais que je ne peux rien faire de moi-même, ce n'est pas par mes bonnes actions que je peux m'en tirer. Je comprends que Jésus, innocent, il a été traité comme un coupable. Pour que le coupable que je suis puisse être considéré comme un innocent, j'accepte ce cadeau qu'il m'offre, le pardon de mes péchés. Au prix de sa vie, il a versé son sang. Et moi qui étais considéré comme un ennemi de Dieu, je peux devenir non seulement son ami, mais son enfant. Je fais partie de la famille de Dieu. Et Jésus va revenir pour nous donner un corps glorifié, c'est-à-dire un corps qui ne subira plus l'outrage des ans, qui ne sera plus sujet à la maladie et à toutes les misères qui nous font consulter les médecins en ce bas monde. Un corps nouveau qui sera équipé pour vivre éternellement sur une nouvelle terre et sous un ciel nouveau. Voilà l'espérance des chrétiens. Jésus va revenir une seconde fois pour remettre les pendules à l'heure, pour mettre de l'ordre dans ce fichu désordre. Aujourd'hui, il y a de nombreux coupables qui passent pour être des victimes et qui sont traités comme des innocents. Il y a des justes qui galèrent et il y a des crapules qui prospèrent. L'Ecclésiaste aurait pu dire ceci à quelque chose près. À la barre d'un tribunal humain, quand la justice humaine fonctionne, il faut... C'est touchant de voir le sentiment de justice a été rendue. Quand les parties civiles ou les coupables, quand les parties civiles ou les victimes ont obtenu réparation selon le droit. Le droit a été redit, les coupables ont été dénoncés, leurs fautes ont été démontrées, le dossier est documenté, le verdict est proclamé. Et la sanction va tomber. Elle va être appliquée. Au sens pénal du terme, la satisfaction des parties civiles et des victimes, elle est légitime. Si Jésus ne revenait pas pour remettre de l'ordre dans ce fichu désordre, mes amis, il ne nous resterait que nos deux yeux pour pleurer et notre boîte de Kleenex. Jésus va revenir pour récompenser les élus et pour sanctionner définitivement les coupables. Et en premier chef, le diable. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a l'anti-trinité ou la trinité diabolique. La Bible enseigne que Dieu, le Dieu créateur, le Dieu sauveur, est le Dieu trinitaire rédempteur, créateur, rédempteur et sauveur. Et dans l'Apocalypse, on voit la trinité diabolique, le diable, le dragon, le faux prophète. Et une des raisons pour lesquelles Jésus va revenir, c'est pour jeter dans les temps ardents de feu, de soufre, qu'on appelle l'enfer, le diable, le dragon et le faux prophète. Et de cela, il n'en sera plus jamais question. Et plus aucune trace de péché, de séquelles, etc. dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et Jésus reviendra précisément pour appeler chaque être humain à comparaître en jugement et à rendre compte du bien, du mal qu'il aura proféré ou qu'il aura commis dans sa vie. Et ensuite, Jésus revient pour instaurer l'état éternel, nouveau ciel, nouvelle terre. Il ne se fera plus mal, plus aucun mal, plus de dommages, plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie. J'allais dire, ce sera le ciel sur la terre, ce sera un retour à l'originel. Voilà donc la perspective que l'Écriture nous présente. Et je pense que ça, c'est bon pour le moral. Encore faut-il se préparer. Et le prophète Amos disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans Matthieu 24 et 25, quand Jésus parle des temps de la fin et de la fin des temps, sur ces deux chapitres, pratiquement un quart de son discours porte sur la séquence des événements qui vont se produire. Les trois quarts de son enseignement portent sur la nécessité de se tenir prêt au moment, pour le moment où Jésus reviendra. Nous, nous nous soucions, nous nous préoccupons de la chronologie. L'Écriture se préoccupe bien plutôt de l'éthique. L'éthique, c'est l'art de savoir vivre selon Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je voudrais relever cinq aspects, cinq points que Jésus mentionne et qui nous montrent la nécessité d'être prêt lorsque Jésus reviendra. L'imminence du retour de Jésus, elle est avérée. L'imminence du retour de Jésus est de nature à interpeller l'enfant de Dieu, tout comme celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a rien à voir avec l'Église et qui n'a que faire de Jésus. La première chose que Jésus dit dans Matthieu 24, concernant la nécessité de se tenir prêt pour son retour, c'est la nécessité de rester sur le qui-vive. Rester sur le qui-vive. Jésus dit, recevez, dans Matthieu 24, verset 32, je vous lis rapidement les textes, recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. J'ai fait le service militaire et je me souviens des fameuses gardes la nuit, dans des longues soirées d'hiver, dans des hangars, dans un trou perdu où on se demande qui pourrait bien venir. Et à 2 heures du matin, on devait, la neige tombant, être planté comme un planton près d'un hangar. On se demande qu'est-ce qu'il y avait dedans et qu'est-ce qu'on faisait là. Et franchement, on avait plutôt envie de rester couché. Alors parfois, heureusement, le planton à la caserne, dès que l'adjudant sortait en jeep pour aller faire sa ronde, pour voir si on ne dormait pas, il nous lançait un petit coup de téléphone en disant « Préparez-vous, il arrive !» Ben oui, ça aurait été la honte d'être en train de dormir alors que... Et c'est un peu ce que Jésus dit, restez sur le qui-vive. Deuxième exhortation, Jésus dit, il faut agir fidèlement, conformément aux instructions du Maître. Dans Matthieu 24, verset 45, Jésus dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son Maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son Maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », S'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, la nécessité d'agir conformément aux instructions du maître, sans se laisser surprendre. La troisième exhortation que Jésus va lancer dans Matthieu 25, c'est ce qu'il est convenu d'appeler la parabole des 10 vierges, souligne la nécessité de faire preuve de prévoyance et d'anticipation. J'ai fréquenté pendant de longues années en région parisienne une église pluriethnique, multinationale, et j'aimais beaucoup cette église. Un jour, nous avons été invités à participer au repas de fête d'un mariage. C'était un couple africain. Nous avions reçu carton d'invitation, rendez-vous à 19h précise. Et précise était bien précisée. Avec ma femme, nous sommes arrivés à 18h50. Je me suis dit, et j'ai dit à ma femme, oh là là, mais on va se taper la honte, nous allons être les derniers. Que nenni, vous disais-je, nous étions les premiers. Nous avons même dû donner un petit coup de main en cuisine parce qu'ils étaient un peu débordés par les événements et pris par le temps. Les heureux mariés sont arrivés, la bouche en cœur, à 23h30. Et quand nous sommes partis à 4h du matin, il y a encore des invités qui arrivaient. Ouais, nos amis africains nous disent bien, vous les blancs, vous avez l'heure, mais nous, on a le temps. Alors Jésus a raconté cette histoire dans Matthieu 25. Jésus dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Une petite parenthèse pour contextualiser, je rappelle qu'à l'époque, EDF n'avait pas électrifié toutes les lignes en Palestine. C'est qu'il y aurait encore avec la lampe à huile. Je ferme la parenthèse. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, ça m'a aidé à comprendre, au Moyen-Orient, les époux, ils tardent parfois. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » J'ai eu l'occasion, on a fait la conduite accompagnée avec plusieurs de nos enfants. C'est une épreuve redoutable qui enseigne de grandes leçons. Et on a un de nos chers garçons, le maître mot, pour lui, l'exhortation c'était « anticipe, 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 regarde à droite, regarde à gauche ». C'est pas parce que tu vois rien pour l'instant, qu'il n'y a pas un objet volant non identifié qui ne pourrait pas barrer ton chemin. Mais le mot « anticipe », là, on a eu beaucoup de mal à faire rentrer cette leçon. Alors, cette histoire que Jésus raconte, elle est croustillante. Deux catégories de jeunes filles bien différentes ont été invitées à un mariage. Les unes, avisées et prévoyantes, avaient prévu de l'huile pour leur lampe, tandis que les autres, négligentes, étant l'air, n'avaient rien préparé. Le marié s'étant fait attendre, toutes les invitées s'assoupissent. Et à l'arrivée du marié, elles ont besoin d'allumer leur lampe pour se rendre à la salle des noces. Celles qui avaient tout prévu y parviennent sans problème et dans les délais. Par contre, et fort malencontreusement, l'imprévoyance des invités négligentes leur fut fatale. Elles trouvèrent porte close et ne purent prendre part à la fête. D'où la nécessité de prévoir et d'anticiper à l'avance. Et cette parabole se termine sur ces paroles très dures que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la bouche de Jésus. Non, je ne vous connais pas. Dehors, porte close, et il y a des pleurs et des grincements de dents. Les grincements de dents, ce sont des regrets amers, des lamentations. Et la Bible dit que Jésus va revenir. Alors pour les uns, ceux qui sont prêts, c'est une très bonne nouvelle. Pour les autres, ceux qui n'ont pas été préparés, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, elle commence par la mauvaise nouvelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, elle continue avec une bonne nouvelle. Ils sont gratuitement déclarés justes. Dès lors qu'ils ont compris et accepté, admis que ce Jésus qui était innocent, il a été traité comme un coupable pour que le coupable que je suis puisse être considéré comme un innocent. Et la Bible affirme que celui qui croit cela dans son cœur, que Jésus est mort pour lui et ressuscité d'entre les morts, il reçoit comme un cadeau le pardon de ses péchés, l'assurance de la vie éternelle, le billet pour aller au ciel et entrer par la grande porte. Et puis Jésus va continuer, après avoir souligné la nécessité d'être sur le qui-vive, la nécessité d'agir conformément aux instructions du maître, la nécessité de faire preuve de prévoyance et d'anticipation. Dans Matthieu 25, versets 14 à 30, Jésus va souligner la nécessité de faire fructifier le capital que nous avons reçu. Et Jésus a raconté une histoire, un maître devant partir dans un long voyage. Cet homme était riche, il a confié à ses serviteurs des talents qu'il leur demande de faire fructifier, de faire valoir jusqu'à son retour. Alors, deux des serviteurs investissent intelligemment la somme reçue et ils parviennent à doubler le capital initial. Tandis que le troisième préfère enfouir son talent sous la terre et ne produire aucun intérêt. À son retour, la colère et le verdict du maître ne sont que pure justice, et de s'exclamer dans les versets 28 à 30 de Matthieu 25, « Enlevez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » D'où la nécessité de savoir gérer avec zèle et sagesse le capital que le Seigneur nous a confié dans le but de le faire fructifier. Et puis enfin, la cinquième exhortation que Jésus adresse à ses disciples, dans le souci de se préparer au retour de Jésus, nous la trouvons dans Matthieu 25, versets 31 à 46, la nécessité de mettre son amour en action envers les plus modestes. Lors du retour de Jésus, l'humanité tout entière devra comparaître afin de rendre compte du bien comme du mal que chacun aura commis. Si l'un des critères de jugement portera sur le bien que chacun aura fait, pas, eh bien, un autre critère portera sur le bien qu'il aurait dû et pu faire, mais qu'il n'a pas fait. dans la théologie catholique romaine, on parle des péchés commis par commission. C'est le mal que nous avons commis que nous n'aurions pas dû faire. Et des péchés commis par omission. C'est le bien que nous aurions dû faire, mais que nous n'avons pas su faire. Et Jésus parle de cela précisément dans cet enseignement. Jésus enseigne dans cette parabole que le bien que nous avons fait à notre prochain, tout comme celui que nous aurions dû lui faire, mais dont nous l'avons privé, l'affecte lui, Jésus, personnellement, et le concerne. Et il dira, le jour où vous avez donné à manger, à boire, à l'un de ses plus petits, le jour où vous avez visité un prisonnier dans sa cellule, le jour où vous avez partagé votre pain avec celui qui n'en avait pas, le jour où vous avez donné un verre d'eau à quiconque était assoiffé, eh bien c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pour moi que vous l'avez fait. Le bien ou le mal que vous avez commis me concerne et Jésus voit de ce point de vue, il évalue notre vie. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Et ses disciples de lui dire, mais quand avons-nous fait cela pour toi? Et Jésus de leur répondre, mais dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La Bible dit que Dieu est le Dieu de la justice. Et la justice de Dieu, si vous permettez le jeu de mots, elle est équitable. Elle fonctionne. On aimerait qu'à la barre d'un tribunal humain, la justice soit aussi irréprochable. La Bible dit que Jésus, quand il reviendra, il va instaurer un règne de paix, de justice et de bien-être. Et ce sera, j'allais dire, un retour à l'Éden originel. Je pense que personne ne pourra dire c'était quand même mieux de là où je viens. Non. Et l'Écriture utilise de belles images pour nous mettre en éveil et quelque part pour stimuler nos papilles spirituelles. Et d'ailleurs, l'Écriture utilise souvent l'image du banquet messianique. Le banquet messianique auquel tous les humains sont conviés, c'est une belle image du royaume. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'apôtre Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, il leur disait, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et Paul disait, la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Nous avons cru, c'est la raison pour laquelle nous parlons. Et tout à l'heure, nous avons entendu le témoignage émouvant de notre sœur et de notre frère. C'est dans leur cœur, c'est dans leur être, c'est dans leur trip, c'est dans leur ADN, c'est ce qui fait leur vie, on sent ça, ça vient de leur cœur. C'est une conviction qu'ils souhaitent partager, qu'ils n'imposent pas, qui se propose. Et vous savez, Dieu est, permettez-moi, est le premier défenseur des droits de l'homme. Il respecte la liberté de chaque être humain. Il ne s'impose pas, il s'offre. La Bible dit qu'il frappe, que Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il n'entrera pas de force. On a représenté cette image, un peintre, et il n'y avait pas de poignée, parce que oui, c'est vrai, la poignée est plutôt de l'intérieur. C'est moi qui peux ouvrir la porte ou qui la laisse fermer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre la porte, Jésus dit, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Et le repas, c'est le symbole de l'intimité, de la convivialité et de la prospérité morale et spirituelle. Nous allons prier en terminant. Seigneur Dieu, Créateur, Rédempteur, Sauveur, Toi le Dieu trois fois saint, toi le Dieu qui nous a créés, qui nous connaît de toute éternité. Nous sommes émerveillés de savoir que tu es Dieu et tu t'es fait connaître en la personne de Jésus, la parole faite chair. Tu t'es fait connaître dans la Bible, cette parole de Dieu, l'écriture faite libre. Merci parce que tu es le Dieu vivant et vrai. À qui d'autre qu'à toi irions-nous? Merci parce que notre vie, elle a un sens. Elle a eu un commencement, elle a un déroulement, elle aura un dénouement. Merci parce que toi, tu as un projet pour l'humanité. Merci parce que tu ne nous laisses pas livrer à nous-mêmes. Merci parce que c'est toi le maître de l'histoire. C'est toi qui as eu le premier mot. C'est toi qui auras le dernier mot. Nous te prions, Seigneur, de nous enseigner à bien compter nos jours qui sont comparables à une vapeur, à la brume du matin qui s'évapore d'ici la fin de la matinée. Nous sommes comparables à la fleur des champs dont l'éclat est brillant jusqu'au milieu du jour et puis ensuite elle se fane. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à nous tenir prêts pour ton retour, ne pas nous laisser surprendre, ne pas nous laisser emporter dans ce moule de tout le monde où tout le monde finit par ressembler à tout le monde et on se laisse emporter par une vague, un chemin large, facile, mais qui nous mène dans le mur. Aide-nous à repasser ces choses que nous avons entendues et fais-nous la grâce d'être réconciliés avec toi, de devenir tes enfants, d'entrer dans ta famille et de pouvoir acclamer Jésus dans la joie quand il reviendra. Nous t'adorons et nous nous aimons les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen.